Donc 1 Corinthiens 12, 12 à 27, page 1298. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant ? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant ? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps, comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». Ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
Bien, je suis heureux de m'associer aux vœux de Paul. C'est une joie de voir chacun et bonne année. C'est pratique, comme ça je le dis à tout le monde d'un coup. Bonne année à tous et toutes, et j'aurai le plaisir de vous le redire tout à l'heure, je l'espère. Alors c'est la période des fêtes, et je l'avoue, c'est souvent la période des rediffusions. Et quelques-uns parmi vous, je pense pas la majorité, ceux qui étaient à la petite retraite de l'église à Vaux-sur-Seine, il y a un peu plus d'un an, ont déjà entendu ce message, à peu près dans une version un peu différente. Et donc voilà, c'est l'occasion de l'écouter à nouveau. Et puis pour les autres, c'est la première fois. Je suis pas dans une très grande forme ce soir, donc j'espère que ça va bien se passer. On va essayer que ça se passe mieux que pour Maria Carey à New York hier. Mais le Seigneur est bon et surtout sa parole, elle est toujours fiable. Voilà, soyons sérieux maintenant. Alors, c'est pas si sérieux que ça, mais dans le film, un grand film culte, 35 heures c'est déjà trop, un employé lambda décide un jour qu'il en a assez de son boulot. Il en a assez et qu'à partir de maintenant, il va faire ce qu'il veut. Et donc un jour, par exemple, il décide de ne pas aller au travail tout simplement. Il en a assez, il ne veut plus aller au travail. Alors son patron l'appelle, lui laisse une dizaine de messages sur son répondeur. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas venu au travail? Et on le voit avec un grand sourire, l'employé donc faisant la grasse matinée, ignorant complètement les reproches de son supérieur. Et à ses amis qui lui demandent « Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il répond simplement que voilà, il n'avait pas envie d'aller au travail, donc qu'il n'est pas allé. Alors l'histoire est drôle parce qu'elle joue sur l'absurde. Évidemment, on ne peut pas décider comme ça qu'on n'ira pas au bureau simplement parce qu'on n'en a pas envie. On ne peut pas le décider. Alors vous voyez peut-être venir, vu le titre du message, avec cette illustration. Et j'entends déjà l'objection tout de suite qui vient. Mais attention, on ne peut pas comparer le travail et l'Église, surtout pas. L'Église, ce n'est pas le travail. Et c'est vrai, bien sûr, que l'engagement envers l'Église locale n'est pas la même chose que l'engagement envers un emploi. Et à bien des égards, c'est très différent. À vrai dire, s'il y en a, selon la Bible, s'il y en a un des deux qui est encore plus important que l'autre, c'est plutôt l'engagement envers l'Église locale, dans un sens en tout cas ultime et essentiel. Et maintenant, avant que vous m'accusiez d'être naïf ou culpabilisant ou excessif, je voudrais qu'on essaye de comprendre ce que l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, veut nous dire au sujet de l'engagement de l'Église locale, dans ce texte de 1 Corinthiens 12 que Marie nous a lu. Et on va se poser cette question, et je pense que c'est une bonne occasion de le faire au début de l'année. C'est souvent l'occasion de prendre des résolutions ou de réfléchir justement à nos engagements, à nos valeurs. Je pense que c'est bien de se poser cette question toute simple. Que signifie faire partie d'une Église? Et je vous propose de répondre à cette question par une sorte de devise. Alors, pas tout à fait la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, mais presque, unité, diversité, solidarité. Et donc on va examiner ces trois aspects de la vie d'Église, qui sont trois aspects essentiels. Unité, diversité, solidarité. On va les examiner l'un après l'autre. Donc on commence par l'unité. Alors vous aurez repéré en écoutant attentivement la lecture que Marie a faite du texte, ou bien en lisant à l'avance le texte en vue de ce culte, vous aurez repéré que l'apôtre Paul utilise une image. Il utilise une image qu'il développe en fait du début à la fin du texte. Et c'est l'image du corps humain et des membres du corps. Et il explique d'emblée où il veut en venir avec cette histoire. Dès le début du texte, au verset 12, il nous dit « Le corps forme un tout, mais a plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. » Alors, l'image, elle est assez facile à comprendre. Chacun d'entre nous a un seul corps qui est uni, mais qui est composé de parties différentes. Alors la dernière phrase, elle est un peu plus surprenante. On s'attendrait à ce que Paul écrive « Il en va de même pour l'Église ». Au lieu de cela, il écrit « Il en va de même pour Christ ». Mais on comprend mieux lorsqu'on lit le verset tout à la fin de l'extrait qu'on a lu, le verset 27. « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part ». Et quand l'apôtre Paul dit « vous », il s'adresse ici en premier lieu à l'église de Corinthe, à l'église locale qui était à Corinthe. Et par-delà, et Paul, je crois, en était pleinement conscient, il s'adresse aussi à toutes les églises locales par ailleurs, y compris à l'église de la rue de Sèvres. Dans d'autres textes, l'apôtre parle de l'église au sens plus large et universel, le peuple constitué par les disciples de Jésus partout dans le monde. Mais ici, dans le contexte, c'est clairement l'église locale qui est visée avant tout, avec concrètement des gens qui se rassemblent régulièrement. Et il dit donc que l'église de Corinthe, qui était une grande ville importante donc de la Grèce, que l'église de Corinthe a pour vocation d'être le corps de Christ. Alors c'est une image, bien sûr. C'est une image, mais une image qui est très forte. L'église, en tant que corps du Christ, a pour vocation de montrer Jésus-Christ, de manifester la présence de Jésus, en quelque sorte, de même que notre corps manifeste d'une certaine façon le fait qu'on est là. Notre esprit n'est pas visible, mais notre corps, lui, est visible. Et l'Église a pour vocation de montrer Jésus au monde, de vivre de la vie qu'il donne, et de manifester donc sa présence dans le monde. Et le fait de se dire cela, ça remet les choses en place. L'Église n'existe pas pour nous, mais elle existe pour lui. Et c'est fondamental d'être au clair là-dessus, pour comprendre à quel point l'unité, notre premier mot-clé donc, est essentielle pour l'Église. Parce qu'il n'y a pas plusieurs Jésus, il n'y a qu'un seul Jésus. Et donc si l'Église est son corps, par définition, elle a vocation à être unie, c'est-à-dire consacrée au même objectif, manifester encore une fois la présence et l'action de Dieu dans ce monde rebelle à Dieu. Et pour illustrer cela, l'image du corps est très parlante. Un corps, c'est uni par définition. Lorsque je me déplace, c'est tout mon corps qui se déplace. Lorsque je me repose, c'est tout mon corps qui se repose. Les parties du corps, donc, sont indissociablement liées entre elles. Et leur vie, la vie de chacune des parties du corps, est intrinsèquement liée à la vie du corps en général. Je ne sais pas si, comme moi, on vous a enlevé des dents quand vous étiez ado. Moi, j'avais une carte de fidélité chez le dentiste pendant quelques années, entre 12 ans et 14 ans à peu près. Bien, si on vous enlève une dent, Elle ne fait plus partie de votre corps et elle meurt. Vous voyez, le dentiste vous montre parfois la dent et elle fait plus partie. Je sais, c'est un peu bizarre. Elle fait plus partie de votre corps. Et en fait, elle ne sert plus à rien. Elle a vraiment perdu sa raison d'être, son identité. Parce que chaque partie du corps trouve son identité et sa fonction dans son appartenance au corps. Et l'unité essentielle entre toutes les parties du corps, elle vient du fait que toutes les parties servent le même objectif. Le bon fonctionnement et la préservation de notre vie. C'est d'ailleurs extraordinaire quand on pense à la complexité du corps humain et au fait que tout cet ensemble de choses qui se passent à chaque instant sont au service de notre vie, du fait qu'on puisse continuer à vivre. Et nier le fait qu'un créateur soit à l'origine de cela, au fond, c'est quand même défier la raison même. Alors quand on considère que pour l'apôtre Paul, l'Église locale, c'est le corps de Christ, ça doit quand même nous remuer un petit peu. Parce que qu'est-ce que ça implique si chaque chrétien est un membre du corps du Christ? Ça implique qu'un chrétien passe à côté de sa vocation essentielle en tant que chrétien lorsqu'il n'appartient pas au corps, lorsqu'il n'appartient pas à la communauté locale qu'est l'Église. Une autre implication de cette image, c'est qu'un chrétien ne fait pas partie de l'Église pour soi, mais pour l'Église. De même que une main ou un pied n'existe pas pour soi, mais pour le corps. En fait, et directement lié à cela, les chrétiens sont liés les uns aux autres, non pas pour se servir eux-mêmes, même pas pour trouver un intérêt commun, comme on le fait dans une association ou dans une entreprise. On se met ensemble parce qu'on a tous un intérêt commun dans cette œuvre. Non, c'est beaucoup plus que cela. Il s'agit d'être au service de celui à qui le corps appartient, Jésus-Christ. Donc il faut bien comprendre ici que l'apôtre Paul ne nous parle pas de quelque chose de secondaire. Il ne dit pas aux Corinthiens, bon, puisque vous avez décidé de vous associer et de former une église, très bien, ben maintenant je vais vous donner quelques conseils pour, tant qu'à faire, bien fonctionner ensemble et être unis. Non. Voici ce qu'il affirme au verset 13. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, donc c'est dit dans le contexte de l'époque, qui que nous soyons, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Alors, l'apôtre Paul utilise des images qui peuvent un peu nous surprendre, mais en gros, si nous avons été baptisés, si nous sommes devenus chrétiens et si nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est pour former un seul corps. C'est pour cela. C'est à ça que sert la vie chrétienne. Et il ajoute au verset 18, « Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. » Donc c'est Dieu qui est à l'œuvre dans l'Église. Nous sommes à son service et non pas le contraire. Ce qui fait d'une Église qu'elle est unie, donc, c'est le fait qu'elle se mobilise pour la même mission, vivre pour Jésus, le montrer au monde. Et si une Église ne remplit pas cette vocation, alors elle le fait toujours imparfaitement, bien sûr, mais si elle passe à côté de cette vocation, elle passe à côté de l'essentiel. Et si, à titre personnel, nous renonçons à trouver notre place dans cette mission collective, eh bien, nous passons à côté de l'essentiel de notre vie chrétienne, et à vrai dire, de l'essentiel de la vie tout court. Dieu a créé l'être humain pour qu'il vive dans une communauté qui soit réconciliée et en paix avec lui. Dieu nous a créés pour que nous vivions en Église, pour que nous soyons une communauté unie au nom de Jésus-Christ. Donc l'unité, on voit qu'elle est absolument incontournable. Mais ce que Paul va souligner ensuite avec force, c'est que l'unité du corps repose sur la diversité de ses membres. Et donc c'est notre deuxième mot-clé, diversité. Alors quand on dit diversité aujourd'hui, c'est un mot très à la mode, et on peut avoir à l'esprit des choses un peu poétiques et idéalistes. Il faut célébrer la diversité, vivre la diversité, etc. Et c'est très bien, rien de mal à cela. Diversité est une bonne chose. Mais ici, pour l'apôtre Paul, la diversité, c'est pas un plus, encore une fois. C'est absolument vital. On peut absolument pas s'en passer. Alors, quelques petites images pour nous donner une idée de cela. Imaginez un pays où tous les médecins seraient dermatologues. Vous avez un problème de peau, là, il n'y a pas de problème, vous avez l'embarras du choix. Mais si vous avez quelque autre pathologie que ce soit, bah, désolé, il faut aller à l'étranger. Ou imaginez une équipe de foot, j'essaie de trouver des exemples qui parlent un peu aux uns et aux autres. Imaginez une équipe de foot où tout le monde est gardien. Tout le monde est gardien. Il n'y a que ça, 11 gardiens. Ou un orchestre symphonique où tout le monde joue du tuba. Donc des images toutes bêtes, mais qui montrent bien que sans la diversité, il ne peut y avoir de réelle unité. Mais Paul prend une image meilleure que celle-là, plus parlante, la même qu'il a déjà utilisée depuis le début du texte, l'image du corps humain. Et il souligne bien combien la diversité dans le corps humain, elle est vitale, littéralement. Elle est vitale. On ne peut pas vivre sans. Verset 14 à 18. « Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait... » Alors, Paul fait un peu d'humour là, mais en même temps, ce qu'il nous dit est sérieux. « Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant ? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant ? Et si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat ?» Donc la diversité des parties du corps, elle est vitale. Et plus encore, c'est la diversité qui permet l'unité. Et c'est ce que Paul souligne au verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Et à la fin du texte, l'apôtre Paul va montrer combien l'Église a besoin de différents ministères, puisque c'est ça bien sûr qu'il veut illustrer. Verset 29, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils enseignants, tous font-ils des miracles, etc. Et bien sûr, la réponse implicite à chaque fois, c'est non. On a besoin de tous ces ministères-là, de tous ces dons-là, et il parle de bien d'autres par ailleurs. Alors vous me direz que, dans un sens, tout ça est assez évident. Oui, bien sûr, il faut de la diversité, c'est sûr, sinon on ne peut pas fonctionner. Et après ? Eh bien, ce qu'il faut dire après, c'est que la diversité, ça ne peut pas rester une idée abstraite. La diversité n'a de sens que si les membres agissent. Elle n'a de sens que si les membres, les diverses personnes qui font partie du corps s'engagent dans ce corps. Pour l'apôtre Paul, ne pas s'engager dans une église, alors je reviendrai un peu sur ce que ça peut vouloir dire, mais c'est aussi absurde que de dire qu'une jambe décide qu'elle ne veut plus travailler pour le corps. Une partie individuelle ne peut pas décider tout d'un coup de ne plus faire partie du corps, à moins de se perdre elle-même, à moins de perdre son identité même et sa vie elle-même. Verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Et Paul ne parle pas ici de quelques dons seulement, ou de quelques fonctions, mais bien de tous les membres, de toutes les personnes. Et preuve en est au verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est important, parce qu'on peut penser parfois que l'apôtre Paul parle simplement de quelques aptitudes en quelque sorte, mais pas forcément des personnes vraiment elles-mêmes. Non, les membres, c'est nous. C'est bien clair dans le propos de l'apôtre. Enfin, Paul affirme que c'est Dieu, on l'a vu déjà, qui dispose les parties du corps. C'est Dieu qui décide, c'est son œuvre. C'est pas nous qui, en grand seigneur, daignons accorder un peu de nos services à l'Église parce qu'on est gentil. Non, c'est Dieu qui nous place dans son corps, qui nous a donné des vocations, des aptitudes, des appels divers et qui nous invite à les mettre en œuvre. Et je parle d'aptitudes, d'appels, je ne dis absolument pas que tout est clair pour tout le monde sait très bien précisément quel est son rôle dans l'Église. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est un discernement qui doit être collectif d'ailleurs, et c'est à l'Église aussi d'accompagner, là, et ce n'est pas facile à faire, d'accompagner la réflexion de chacun et l'engagement de chacun pour trouver sa place dans ce corps, dans la prière. Pour Paul, donc, être chrétien, ça implique forcément de faire partie d'une Église locale. Et faire partie d'une Église locale, ce n'est pas seulement être en phase, être sympathisant, j'aime bien ce qui s'y fait, mais c'est jouer le rôle essentiel que Dieu nous appelle à y jouer pour faire vivre son corps. Donc dire que l'Église a besoin de la diversité de ses membres, c'est dire qu'elle a besoin de chacun d'entre nous. Et dès lors, on ne s'engage pas dans l'Église pour donner un coup de main. Alors c'est très bien de le faire. On ne s'engage pas dans l'Église parce qu'on est gentil, mais parce qu'il en va de notre vie dans ce qu'il y a de plus essentiel. Donc l'Église locale est une communauté appelée à l'unité et à la diversité. Mais pour que la diversité soit mise au service de l'unité, il faut de la solidarité. Et c'est troisième et dernier mot-clé. On peut avoir un même but, on peut avoir des personnes et capacités complémentaires, mais si ces personnes ne sont pas solidaires, eh bien la diversité ne sera pas mise au service de l'unité, mais va plutôt tout éparpiller dans tous les sens. Lors de la catastrophique Coupe du Monde 2010, alors que la France, décidément le foot ce soir, alors que la France venait de perdre contre le Mexique, le joueur Jérémy Toulalan a eu cette réflexion sur la défaite. Il a dit « La différence entre nous et le Mexique, c'est que le Mexique était une équipe alors que nous, nous étions 11 joueurs. » Le problème de l'équipe de France n'était pas un manque de talent ou une absence d'aptitude, de capacité. Il y avait de très grands joueurs dans cette équipe. Mais c'était l'incapacité à mettre ses talents au service d'une même cause. Mais l'apôtre Paul parle, lui aussi, de solidarité dans notre texte. Après avoir parlé de la diversité comme quelque chose d'absolument nécessaire, il poursuit au verset 22 et 23. « Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. » Et au verset 24, « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. » Que nous dit l'apôtre Paul ici ? Alors, ici encore, et comme très souvent dans la Bible, il faut faire attention à ne pas confondre l'image que Paul emploie et la réalité que cette image illustre. L'image nous dit ceci. Certaines parties du corps, les moins visibles, sont absolument essentielles. Certaines parties du corps humain, les moins visibles, sont absolument essentielles. Et Paul semble penser aux organes internes. Le cœur, les poumons, on ne les voit pas, mais ils sont absolument incontournables. Et il poursuit en disant que les parties du corps qui semblent les moins honorables sont traitées, donc paradoxalement, avec plus d'égard, verset 23. Et ici, Paul semble penser aux parties intimes, qui sont indécentes à montrer, mais en même temps qui bénéficient du coup de, en quelque sorte, la plus grande protection. Alors je l'ai dit, il ne faut pas faire dire à Paul plus que ce qu'il veut dire. Il emploie une image. Donc son propos n'est pas de dire que les personnes les moins visibles sont toujours les personnes les plus essentielles et que les plus visibles sont toujours les plus inutiles. Ce n'est pas ça son propos. Précisément, son propos, c'est de refuser toute hiérarchie d'importance dans l'Église. La logique qui doit guider l'Église est inverse à celle qui doit guider, à celle qui guide le monde. Dans le monde, d'un point de vue général, on accorde le plus d'importance à ce qui fait le meilleur effet, à ce qui est plus visible. Dans l'Église, en revanche, chaque membre est essentiel, y compris ceux qui sont les plus discrets, ou les plus fragiles, ou parfois les plus difficiles. Ceux qui sont, alors qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que ceux qui sont les plus visibles dans l'Église, entre guillemets, ne doivent pas penser qu'ils comptent plus pour la vie du corps, ou qu'ils comptent plus aux yeux du Seigneur. Et ça, c'est un bon rappel, bien sûr, pour les responsables d'Église, notamment, ou les prédicateurs dont je suis. Nous ne sommes pas plus importants, nous ne sommes même pas plus utiles que d'autres. Dieu pourrait sans problème nous remplacer, ça j'ai aucun doute là-dessus. Dieu pourrait sans problème se passer de nous. Mais à l'inverse, ceux qui sont les moins visibles ne peuvent pas non plus se dédouaner trop facilement en disant « Oh, moi, de toute façon, mon rôle n'est pas bien important. L'Église tourne très bien sans moi. Donc, c'est pas si important de m'engager. » Si nous sommes réellement dévoués à un but qui nous dépasse tous et qui nous rassemble en même temps, notre préoccupation, ça ne va pas être de savoir qui est le plus important, qui est le moins important. On se rappelle ce qu'a dit Jésus à ses disciples qui se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Il leur a dit, si vous voulez être le plus grand, soyez celui qui s'abaisse le plus, soyez le serviteur des autres. Notre préoccupation sera donc d'être ensemble au service les uns des autres, d'être solidaires pour remplir notre vocation, d'être le corps du Seigneur, un corps en bonne santé, en mesure d'être porteur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La solidarité, c'est aussi ce réflexe que Paul va énoncer au verset 26. si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Je me souviens, il y a longtemps, d'une petite infection que je m'étais faite au coude. Ça commençait, c'était trois fois rien. Finalement, j'étais bien malade, j'ai dû être hospitalisé même, alors que c'était vraiment une toute petite partie du corps qui était affectée au départ. Ça, c'est la solidarité. Quand un membre est affecté, tous souffrent. Si un membre est honoré, poursuit Paul, tous les membres se réjouissent avec lui. Et donc, ça implique que la solidarité, c'est être lié aux autres plutôt que de cloisonner nos vies, plutôt que de cloisonner nos vies par des défenses que nous voulons hermétiques. Et la solidarité, du coup, ça fait un peu mal parfois, parce que dans un sens, ça amène de nouveaux soucis. Quand on commence à se préoccuper vraiment, pas juste « salut, ça va », mais quand on commence à se préoccuper vraiment de la vie des autres, de savoir s'ils vont bien, eh bien, ça amène de nouveaux soucis, ça amène de nouveaux espoirs aussi, ça amène de nouvelles craintes, parce que de nouvelles craintes que celles qui étaient exclusivement liées à notre quotidien, quand on n'a que ces problèmes, entre guillemets, à gérer, on peut plus ou moins s'en sortir, mais quand on se sent solidaire de tout ce que vivent les autres, alors solidaire, ça ne veut pas dire responsable des actions de l'autre, mais solidaire, eh bien, ça crée parfois de nouvelles difficultés, de nouveaux soucis. Mais c'est aussi une grande bénédiction, parce que ça apporte de nouvelles sources de soutien, de force et d'encouragement mutuel. C'est ça, être un corps, et c'est ça, être solidaire. Alors, j'aimerais conclure avec des considérations pratiques. Donc, on a vu que l'engagement dans l'Église, ce n'est pas une option. Pour l'apôtre Paul et le reste du Nouveau Testament, c'est tout simplement indissociable de la vie chrétienne. Alors, bien sûr, il y a un temps pour... alors, d'une part, pour ceux qui sont encore en recherche de Dieu, qui n'ont pas encore confessé Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, bien sûr qu'on ne peut pas attendre de ces personnes-là qu'elles soient engagées dans le corps, parce qu'elles n'en font pas encore partie. Et l'Église est là aussi pour ces personnes-là. Et nous avons à cœur que l'Église de la rue de Sèvres soit une communauté qui accueille ces hommes, ces femmes qui sont encore à la recherche de Dieu. Donc ça, c'est très important de bien le préciser. Mais c'est important justement que ces amis-là soient au clair sur ce que ça veut dire que d'être chrétien. Donc ça, c'est un point qui est important à dire et qu'il est d'autant plus dans une culture aujourd'hui qui est toujours... qui est de plus en plus très, très méfiante de l'engagement. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être engagé dans une église, concrètement? Est-ce que ça veut dire forcément qu'on est impliqué dans toutes les activités ou dans telle et telle activité de l'église, qu'il faut absolument être inscrit à tel ou tel service pratique? Alors à cette question, je crois qu'il faut apporter une réponse nuancée. Et voilà, pour qu'on ne m'accuse pas de faire du recrutement caché. Dans un sens, c'est le cas. Je crois que c'est à ça que notre texte nous appelle. Mais il est clair que la réalité d'un engagement ne se mesure pas au nombre d'heures passées dans un service visible et concret pour l'Église, ou au nombre d'activités hebdomadaires qu'on peut cocher, où on dit « voilà, j'étais là ». C'est clair que ce n'est pas ça l'engagement dans l'Église. Alors attention, c'est une très bonne chose, et merci Seigneur pour ceux et celles qui sont assidus et qui viennent de façon régulière et fréquente, non seulement à nos cultes, mais aussi aux rencontres de semaine, etc. Mais il est clair que l'engagement dans l'Église, tel que ce texte nous en parle, ce n'est pas avant tout faire partie de tel ou tel groupe ou être dans telle ou telle activité. On peut imaginer, bien sûr, des gens qui seraient présents à tous les rendez-vous de l'Église, mais qui seraient égoïstes, indifférents aux autres, intéressés par leur propre honneur, leur visibilité, plutôt que ceux de Jésus-Christ. J'ai absolument personne en tête, vraiment, en disant ça, mais on peut imaginer cette hypothèse. À l'inverse, on peut être peu présent aux activités, et en particulier en semaine, parce que les contraintes professionnelles, familiales font que c'est difficile, mais être pleinement engagé dans la prière pour l'Église. Que ça soit une priorité dans la semaine. Je ne vais pas seulement prier pour mes proches, pour mon travail, pour mon quotidien, mais je vais prier pour mon Église, et le faire assidûment, régulièrement, nommément, en trouvant peut-être un système pour prier pour les uns et les autres de diverses manières. Et c'est une réflexion qu'on peut avoir ensemble et qu'on peut continuer, j'espère, à avoir en tant qu'Église. On peut avoir le souci de l'autre, prendre des nouvelles et vraiment les prendre. Et je me prêche cela à moi-même en premier. vraiment se soucier de l'autre. L'hospitalité qu'on exerce selon les possibilités des uns et des autres. Le soutien matériel qu'on peut pourvoir également à l'Église, bien sûr. Et la Bible en parle, c'est un élément essentiel de l'engagement dans l'Église, c'est le fait de soutenir matériellement l'Église. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, dit Jésus. Notre trésor n'est absolument pas dans l'Église, le risque est grand, si on s'en fie aux paroles du Seigneur, que notre cœur n'y soit pas non plus. Il ne s'agit absolument pas de culpabiliser qui que ce soit, mais plutôt d'amener chacun à réfléchir et à prier sur sa place dans l'Église, en vue de la mission collective qui nous a été confiée. Et bien sûr que cette réflexion, ces prières, elles prendront en compte notre réalité quotidienne, nos contraintes, notre emploi du temps, la réalité professionnelle et familiale. Elle prendra en compte aussi nos dons et nos capacités. Il ne s'agit absolument pas de dire, d'ailleurs ça serait dire l'inverse du texte, de dire que tout le monde peut faire tout et que tout le monde est interchangeable. Non, précisément, il faut de la complémentarité dans les dons. Mais je crois aussi que ces prières et cette réflexion sur l'engagement dans l'Église peut nous amener à voir qu'une contrainte qui peut-être nous paraissait incontournable, peut-être ne l'est pas tant que ça. Peut-être que dans certains cas, on s'est dit « Ah non, ça je peux absolument pas le faire, ça je peux absolument jamais y aller. » Et peut-être que, en fait, c'est pas si impossible que cela. Et que Dieu pourrait nous bénir vraiment si on changeait de regard à ce sujet. De voir aussi des possibilités d'engagement que nous n'avions pas vues jusqu'ici. Pas forcément non plus des engagements strictement dans le planning entre guillemets officiel de l'Église, bien sûr, mais aussi le fait d'aller prendre un café avec quelqu'un d'autre de l'Église pour un temps d'encouragement, un temps d'échange. Ceux aussi et celles qui ont à cœur régulièrement d'annoncer la bonne nouvelle à ceux et celles qui justement ne font pas partie de l'Église, à les inviter à diverses activités. Tout cela, ça fait partie de cette vocation essentielle. Et donc que le Seigneur nous conduise en 2017 à trouver notre place dans le corps qu'est l'Église, dans l'unité, la diversité et la solidarité pour la gloire de Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Père, tu as voulu appeler à toi un peuple formé d'hommes et de femmes, d'enfants concrets, des vrais gens qui ont leur histoire, leur capacité, leurs difficultés, leurs joies. Et tu nous invites, tu nous appelles à former ensemble une communauté. Et bien sûr, nous sommes heureux de savoir le nombre immense de ces communautés partout dans le monde, de savoir que nous ne sommes ici à la RUCEF qu'une petite communauté parmi tant d'autres où ton évangile est prêché, où ton évangile est vécu, où ton évangile est au cœur de tout ce qui est dit et fait. Et nous voulons te demander ton soutien, car nous sommes conscients de nos limites individuelles, nos limites collectives. Et c'est pourquoi nous voulons dans la prière nous reposer sur toi, Seigneur. Permets qu'en 2017, notre Église puisse grandir dans cette vocation que tu lui as adressée, d'être le corps de Jésus-Christ dans notre ville de Paris, dans notre pays, et de participer ainsi à ta mission dans notre monde. Donne à chacun ici présent de pouvoir réfléchir d'abord à son positionnement vis-à-vis de toi et aussi à sa place dans ce corps, dans cette Église. Au nom de Jésus. Amen.